Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Bien, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, on va rester dans quelque chose qui me tient à cœur parce que ça concerne finalement notre devenir à tous, le devenir de l'espèce Homo sapiens. C'est toutes les questions qui touchent à l'écologie, à l'environnement et globalement à l'habitabilité de la Terre. Donc je vous parlerai dans un très bel essai dans quelques jours. Et on va le faire et on va évoquer cette question à travers le livre suivant qui s'intitule « Urgence politique nécessaire ». Nécessité écologique, c'est écrit par Lucile Schmitt, publié aux Presses universitaires de France, 208 pages, 16 euros, on n'est pas volé, ça les vaut largement, et ça vient de sortir puisque ça a été mis dans les bacs des libraires en mars 2026. Alors Lucile Schmitt, ceux qui s'intéressent à cette question en ont certainement entendu parler. Elle est née en 62, elle est d'âge, on va dire, respectable maintenant. C'est une femme politique et essayiste française. Elle a été notamment élue, au Parlement européen, mais aussi elle a été conseillère régionale d'Île-de-France de 2004 à 2010. Licence de lettres, elle rentre à l'Institut d'études politiques de Paris, puis elle intègre l'ENA, l'école d'administration, promotion Montaigne, et ensuite elle va partir à Alger en tant que conseillère économique à l'ambassade de France, puis intégrer le ministère de l'économie. Elle devient également conseillère du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sur les sujets d'immigration, d'intégration et de citoyenneté, puis chef de service institutions et sociétés au Centre d'analyse stratégique. Et enfin, elle devient en 2006 chargée des ressources humaines à la Direction générale du Trésor, donc au ministère de l'Économie et des Finances. Elle est présidente du prix du roman d'écologie qui a été créé en 2018 par la Fabrique écologique. Alors, Fabrique écologique, c'est un think tank, donc un laboratoire d'idées qu'elle a cofondé. Il ne s'agit pas de créer une énième médaille, mais un prix défricheur qui fera, je l'espère, découvrir les mondes de l'écologie et encouragera un élan créateur, nous dit-elle. Et puis, elle est également membre du comité de rédaction de la très belle revue Esprit. Alors, l'éditeur, les PUF, la fameuse PUF, Presse universitaire de France, donc vieille maison d'édition fondée en 1921 par un collège de professeurs, une entreprise spécialisée dans la publication de revues scientifiques, vous en doutiez, de manuels universitaires. Et puis en 2016, cette vieille maison d'édition fusionne avec les éditions Belin au sein de l'entité Humensis. Alors, les PUF, tout le monde connaît au moins la collection encyclopédique Que sais-je, hein, qui a été longtemps des fleurons de cet éditeur, fondé en 1941 par Paul Engoulevent. Sujet, c'était traiter le plus grand nombre de sujets sous un format simple, format de poche, 128 pages, imprimé uniquement en noir et blanc, un peu austère quand même, et c'était à prix réduit, bien sûr, alors immense succès, 3800 titres disponibles, 200 millions d'exemplaires vendus, des traductions dans 43 langues, donc une collection qui est une marque à part entière. Et puis, en 2016, 1er décembre, le groupe d'édition et de presse Humensis, Belin, tout cela va fusionner. C'est quand même le 12e éditeur français, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 180 employés, c'est quand même une grande maison. La société va être dissoute. Et ensuite, Humensis, SCOR et les PUF, les presses universitaires de France, vont rejoindre le groupe d'édition Albin Michel. Alors revenons à notre essai, urgence politique, nécessité écologique, et je vous donne lecture de la quatrième de couverture. Nous vivons autant des menaces, avancées populistes, guerre, dérèglement climatique, disparition du vivant, peur du lendemain. En politique, la déception est consommée avant même les élections. L'écologie n'a jamais trouvé sa place dans l'agenda des puissants. Entre moments d'emballement et faux plats, ce sont le rythme de la vie démocratique et la possibilité d'imaginer l'avenir qui sont affectés. S'il est nécessaire de changer la façon dont nous faisons de la politique, comme de transformer la relation des êtres humains à la nature, pourquoi ne pas penser ces évolutions ensemble ? Le contrat social, aujourd'hui rompu entre les citoyens et leurs représentants, peut être renouvelé par une vision planétaire. La dictature verte est un leurre, l'écologie n'est pas l'ennemi du peuple, elle remet plutôt la démocratie sur l'établi. Elle appelle notre État, des institutions qui fassent place à la complexité et au savoir, et à remettre l'argent à sa juste place. Une écologie démocratique, une démocratie écologique, cet essai montre, diagnostic et exemple à l'appui, que l'avenir se joue en ces termes. Le temps des engagements est venu. Voilà pour ce qui est de la quatrième de couverture. Alors on jette un œil sur la table des matières pour que vous voyez un peu la consistance du livre. Alors bien sûr, une introduction. Je vous donne les grandes têtes de chapitres. C'est même pas des chapitres, d'ailleurs, c'est les quatre grandes parties. L'écologie contre le peuple. Un récit qui fonctionne. Deuxième partie, la politique contre l'écologie, pourquoi c'est vrai. Troisième, démocratie et écologie, un nouvel espace-temps. Et on finit par une partie qui s'intitule « Bifurcation ». Alors je vais vous donner une impression du contenu de ce livre à travers deux lectures. Bon, la première, je la prends, bon, c'est un peu classique, toujours au début du livre, je suis page 24. Voilà ce qu'on peut y lire. Le dérèglement de nos vies sur fond d'inondations, de sécheresses et d'événements climatiques extrêmes montre pourtant les périls et la nécessité de changer. Les rapports scientifiques le documentent, les plus vulnérables sont en première ligne. Pourquoi la perception de l'écologie s'est-elle à ce point dégradée, surtout au sein des milieux populaires ? Pourquoi la nécessité d'agir est-elle contestée ? Cela vient d'abord d'une polémique autour des libertés. Les libertés dans le monde d'avant, celui où les dérèglements climatiques restaient à leur place, invisibles et secondaires, ne sont pas celles du monde qui vient. C'est vrai, l'écologie modifie le contrat social. La production et la consommation sans frein sont incompatibles avec un réchauffement climatique contenu et une Terre habitable en 2100. Elles génèrent des déchets, des pollutions destructrices de la biodiversité. La protection de la nature implique de ne pas considérer tout espace vierge comme un espace agricole potentiel ou comme une zone de construction. L'agriculture et les modes d'alimentation des pays développés ne sont plus soutenables. Il s'agit de préserver autant que de transformer, de ne plus faire de la croissance la pierre angulaire du développement. Comment penser un nouveau monde, transformer l'ancien, ne pas créer de nouvelles injustices, fermer les guillemets. Voilà pour cette première lecture. Et puis maintenant, je vous propose d'aller un peu plus loin dans le livre, très exactement à la page 162. Ouvrez les guillemets. Quelle que soit la qualité des instances, le caractère irréprochable de leurs méthodes, les sujets traités, la clarté de leurs travaux, leur indépendance ou la formation des préfets, l'ambition des pouvoirs publics stagne, les instructions ne changent guère. Au mieux, cette accumulation d'initiatives empêche-t-elle un retour en arrière et nourrit-elle un pouvoir d'alerte ? En 2022, l'ancien président de l'autorité environnementale au ministère de l'écologie, Philippe Landewijk, n'hésitait pas à affirmer que, ouvrez les guillemets, la transition écologique n'est pas amorcée en France, fermez les guillemets, dénonçant des modèles à bout de souffle qui conduisent à présenter toujours les mêmes programmes, les mêmes financements, les mêmes projets. Et il ajoutait, nous n'avons pas constaté de ralentissement des projets autoroutiers et nous avons examiné deux projets aéroportuaires. portuaire. Je saute quelques lignes et je poursuis la lecture. L'État organiserait-il la mise en scène de son impuissance ? Des voix autorisées au sein des institutions s'élèvent pour proposer d'autres manières de faire. La Cour des comptes consacre une partie croissante de ses travaux à la transition écologique et y fait des suggestions ambitieuses. En 2023, l'économiste Jean Pisani-Ferry et l'inspectrice générale des finances Selma Mahfouz publient un rapport sur les incidents économiques de l'action pour le climat qui chiffrait les investissements pour décarboner l'économie en France à 65 milliards d'euros par an. Ils y insistaient sur une nécessaire redistribution associant transition écologique et justice sociale et proposer un impôt climatique sur le patrimoine financier des 10% les plus riches. Alors, conclusion de cet essai. Alors, il n'y a pas véritablement une conclusion en tant que telle, mais on va quand même aller sur le chapitre intitulé « État écologique » parce que c'est là que l'autrice nous livre quelques réflexions intéressantes, notamment lorsqu'elle nous dit que rien ne change dans la manière de gouverner, précisant également que l'écologie n'est pas une priorité du pilotage budgétaire. Ça, je pense que vous l'aviez déjà remarqué. Et c'est toujours l'une des premières sacrifiées au nom de l'accessibilité sociale. Et elle poursuit ce propos, Lucille Schmitt, en nous disant que l'écologie, c'est un des sujets sur lequel le décalage entre la fonction publique et les dirigeants politiques est le plus flagrant. Et elle, qui a fait partie des hauts fonctionnaires, et qui en fait toujours partie d'ailleurs, a remarqué qu'il existe de plus en plus de hauts fonctionnaires, d'agents de l'État attachés aux enjeux environnementaux, mais qui n'y est guère chez les dirigeants politiques, surtout lorsqu'ils sont au pouvoir, il n'y en a guère qui se préoccupent de cette problématique. Et elle préconise la sortie de la paralysie, c'est-à-dire il faut rompre le tête-à-tête entre les dirigeants politiques allergiques à la complexité et des cadres publics passifs qui rongent leurs freins. Et elle finit en nous disant « Un État au service du vivant ne peut exister qu'au travers d'une démocratie vivante. » Et elle préconise, pour construire un État écologique, d'envisager autrement la relation entre l'État et la société, de nourrir une vie démocratique qui ne se réduise pas aux élections, et on le sait notamment avec la fameuse élection du président de la République autour de laquelle toute la France tourne, ce qui est une grande erreur, on en a parlé d'ailleurs dernièrement, dans un essai. Elle préconise les conventions citoyennes territorialisées, beaucoup plus fréquentes, et puis de créer avec les chercheurs un dialogue continu, d'ancrer les politiques publiques dans des expérimentations concrètes. Alors pourquoi faut-il lire ce livre ? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Eh bien, de mon point de vue, cet ouvrage nous permet de faire le point sur l'état des relations entre l'écologie et la politique. Il nous permet également de nous interroger sur un point fondamental. Comment se fait-il que la question environnementale, qui est une question existentielle pour l'homo sapiens, je le disais en démarrant, comment se fait-il que cette question soit systématiquement négligée par les dirigeants des grands pays de ce monde ? Mais aussi, pour quelles raisons les élus refusent-ils d'envisager ce qu'est réellement la nature ? Mais encore, pourquoi aucune place n'est-elle faite au bien commun ? Pourquoi cette conception mercantiliste de la biodiversité ? La nature ne saurait être considérée très longtemps encore comme une ressource uniquement destinée à nous servir, et au risque, si l'on poursuit dans cette lignée, de mettre gravement en risque notre espèce. Il est temps de sortir de la démagogie, du court-termisme, de l'attitude irresponsable de la quasi-totalité de nos politiques et de leur enfumage quotidien. Le terme enfumage, que vous m'excuserez, c'est moi qui le dis, ce n'est pas dans l'essai, bien évidemment. Bref, cet ouvrage qui est documenté et renseigné, écrit par une excellente spécialiste de la question, nous apporte des clés de compréhension d'une société paradoxale, et il nous incite à une réflexion salutaire et vitale pour chacun d'entre nous. « C'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Sacha Gauchy. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.